Il y a ici plus que Salomon. Nous voulons nous incliner dans la prière. C'est toi qui es présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, fils bien-aimé du Père, qui nous a été donné comme sauveur et comme Seigneur. Et nous voudrions t'appartenir entièrement, te servir jusqu'à notre dernier souffle, et avoir un cœur entièrement pour toi. C'est notre prière ce soir. Et comme tu l'as dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et sa demande de recevoir la sagesse, tu l'as apprécié et tu lui as répondu. Et tu ne lui as pas donné seulement la sagesse, mais tout ce dont il avait besoin. Nous voulons te demander que nous ayons une relation personnelle avec un sauveur vivant. Non pas un sauveur dont on se souvient en pensant à notre conversion il y a X années, mais le Sauveur d'aujourd'hui, de maintenant, pour les besoins que nous rencontrons à chaque heure. C'est la grâce que nous te demandons. Et d'avance, nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes exaucés. En Jésus. Amen. Mes bien-aimés, vous venez d'assister à ce que nos sœurs nous ont montré en s'étant occupées du groupe que vous avez vu ce soir. Nous avions laissé à tous les responsables des groupes la liberté de choisir ce qu'ils voulaient donner. Nous ne leur avons pas imposé un sujet. Et je remarque que les responsables de ce groupe ont été touchés par ce récit du jugement de Salomon et qu'elles l'ont appris à nos jeunes. Je pense que vous avez été impressionnés de voir que ces jeunes ont compris. Et que c'est quelque chose qui va leur rester pour la vie. Et peut-être pour nous aussi, de l'avoir vu. Alors nous rendons grâce au Seigneur. C'était tout un message. Nous en avions parlé hier, mais elles avaient été poussées à préparer cela. Et maintenant, évidemment, il nous reste peu de temps. Samedi, nous serons déjà sur notre départ. Et nos activités sportives, enfin partiellement, celles du bord de l'eau, non, mais c'est pas vrai. On n'a pas nécessairement à sortir à 4 heures. On m'a dit que je n'avais pas besoin de demander l'homme en or pour sortir le bateau, puisque tout ça est réglé. Alors, nous pourrons peut-être prolonger d'une heure. Est-ce que je me trompe?
Alors, on a décliné. On rejoint Bordeaux, va s'arrêter à 4 heures. Il y a le spectacle.
Ah oui. Alors, ça s'arrêtera quand même à 4 heures, mais il n'y aura pas le transport de bateau. Merci, mon. Jean-Sam. Comment? Bon. Mais voilà, ce matin, nous avons pu méditer sur plusieurs chapitres de ce livre des Chroniques et des rois qui nous racontent la vie de Salomon, et je me rends compte que nous ne pourrons pas méditer nous-mêmes plus longtemps là-dessus, de sorte que je veux croire que vous avez encore le prospectus ou si on en a, on vous les donnera. Vous avez le texte clé de 2 Samuel 12, versets 24 à 25. Le livre des Rois, chapitre 1 à chapitre 11. Et le livre des Chroniques, chapitre 29 à 2 Chroniques. Chapitre 1 à 9, où vous trouverez le récit du règne de Salomon. Nous avons été poussés à vous montrer qui était le père, puisque c'est un clan familial, de Salomon. Et nous avons considéré la vie de ce père, qui s'appelait comment ? David. Et nous nous sommes arrêtés sur sa chute, sur ses fautes. Et maintenant, on pourrait penser que Salomon, qui a reçu après la restauration spirituelle de son père, un enseignement très précis par son père et aussi par le prophète Nathan, on pourrait penser que Salomon a eu une vie beaucoup plus spirituelle encore que David. Est-ce qu'il en est ainsi? Non. Mais je ne m'en vais pas ce soir vous parler des fautes de Salomon, qui pourtant aimait l'Éternel. Nous allons seulement lire quelques versets qui nous montrent ce que ce roi qui a régné 40 ans sur Israël avait pu accomplir. Au verset 27e du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 9, il est dit « Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la Shephéla. On amenait d'Égypte des chevaux pour Salomon ainsi que de tous les pays. » Maintenant, nous allons dans les rois. Premier livre des rois. Après la prière de Salomon, nous lisons au chapitre 5 du premier livre des Rois. Verset 9, Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et au verset 13, il est dit qu'il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur, donc depuis les arbres les plus merveilleux, plus grands, jusqu'au plus petit, l'hysope. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, et nous avons eu l'occasion d'entendre notre ami et frère et qui nous en a parlé de quatre de ces animaux, et sur les poissons, verset 14. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon et de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et vous savez que ce qui devait faire, lui avait été révélé par Dieu lui-même, mais d'abord par son père, qui aurait voulu, David, construire le temple à Jérusalem, et Dieu lui avait dit non, c'est pas toi qui construiras le temple, parce que tu as été un homme de guerre, mais c'est Salomon, ton fils, qui sera un homme de paix. Et tout s'est réalisé comme Dieu l'avait dit. Et ce matin en particulier, nous avons vu comment Dieu avait donné le plan du temple à Salomon avec tous les détails nécessaires pour qu'il ne fasse rien autrement que ce que Dieu avait dit. Et nous avons lu que Salomon aimait le Seigneur. Et qu'il a prié, et nous avons médité sur ses prières, vous lirez ces choses. Et au chapitre 9 du premier livre des Rois, nous lisons que Salomon a pu achever de bâtir la maison de l'Éternel. Il l'a pas seulement commencé, mais il l'a achevé. Puis il a fait la maison du roi et tout ce qu'il avait désiré faire selon son bon plaisir. Et alors l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Il lui était apparu une première fois à Gabaon, quand il était tout jeune, et il lui avait dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Dieu lui avait donné cette sagesse. Et puis, la seconde fois, quand tout a été terminé, je lis au chapitre 9, donc, verset 3, l'Éternel lui dit, « J'ai écouté ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, vous voyez que Dieu ne reprend pas la faute de David, il souligne seulement ce qui était bon dans la vie de David, qui a marché, dit Dieu, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné. Si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, en disant, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. Puis alors, vous lisez ensuite qu'il a fait de grandes entreprises. Nous avons vu comment il avait installé un gouvernement extraordinaire dans son pays. Comment les richesses ont abondé pour lui. Mais tout à coup, et c'est ça qui nous bouleverse, au chapitre 11, après nous avoir parlé des richesses au chapitre 10, chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, puis à toute la liste, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et alors, qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Un homme dont on a vu la sagesse, il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ses femmes détournèrent. Donc, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Après sa chute, le cœur de David était donné entièrement à son Seigneur. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, au culte de Milcom, l'abomination des Adomites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, elle ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Vous voyez, Dieu ne rappelle pas la chute de David, mais il l'avertit. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu combien de fois? Deux fois. Il lui avait donné des ordres sur des points précis qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'ai ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Est-ce que vous avez déjà réalisé que si vous êtes infidèle, ce n'est peut-être pas vous qui payerait tout de suite, mais vos enfants. Et c'est ce qui est arrivé au sujet de Salomon. C'est son fils qui a dû connaître, au fond, les résultats des péchés de son père. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, parce que c'est un Dieu de grâce. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Nous nous arrêterons là, ce soir, et je dirai encore juste un mot sur il y a ici plus que Salomon. Chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Verset 42, comme notre frère l'a souligné tout à l'heure, il n'y a pas seulement plus que Salomon dans les récits de l'Ancien Testament, comme on lit au chapitre 12 de Matthieu. Jésus disait, quand il était sur la terre, que là où il se trouvait, il y avait plus que le temple. Il disait aussi donc qu'il y avait plus que Jonas et qu'il y avait plus que Salomon, comme nous le verrons dans notre dernière rencontre. Et qui est ce plus? C'est Jésus-Christ. Et je voudrais simplement, pour terminer, vous avez eu une longue journée, vous avez entendu plusieurs messages. Alors, nous ne voulons pas prolonger, mais je voudrais encore vous rappeler. Celui qui est plus grand que Salomon, lorsqu'il était sur la terre, chapitre 4 de l'évangile de Jean. Le plus grand que Salomon devait passer au verset 4 du chapitre 4 de Jean. Qui est le plus grand que Salomon? Plus grand que Jonas? Jésus, hein? Il fallait que Jésus traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, vous voyez, il avait revêtu un corps de chair semblable au nôtre, mais dans lequel il n'a jamais péché. Il était assis au bord. C'était environ la sixième heure. C'était quelle heure? Midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine, car les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et c'est avec cela que je voudrais que vous alliez vous coucher. Est-ce que vous connaissez le don de Dieu, le plus grand que Salomon, celui qui disait à la Samaritaine, donne-moi à boire. Et Jésus lui dit, mais si tu savais qui je suis, tu aurais demandé à boire à celui qui t'a dit donne-moi à boire, et tu aurais bu de l'eau vive. Alors la femme répond, mais Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Vous savez, elle observe, il n'a rien pour puiser. Nous avons trop pour puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand? Voilà. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Plus grand qu'Abraham? Plus grand que Jonas? Maintenant, es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits? Qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Est-ce qu'il y a pendant ce... Quand est-ce qu'il y a eu des jeunes ou des moins jeunes qui ont eu ce besoin de boire de cette eau? Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors le Seigneur lui dit, va, dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Jésus n'a pas peur qu'elle ne revienne pas. Ma dernière parole est celle-ci. Est-ce que vous avez connu le plus grand que Salomon ici? Parce que ce n'est pas à Salomon que nous devons nous arrêter. Parce que vous voyez ce que Salomon a fait. Sa chute a été pire que celle de David. Trois cents femmes. Sept cents concubines. Ma mère était tellement choquée qu'elle disait, moi je l'appelle pas Salomon, je l'appelle Salopion. Pour en arriver là, eh bien, mes amis, vous avez vu que c'était un homme qui aimait l'Éternel, soi-disant. Vous dites que vous aimez l'Éternel, que vous aimez le Seigneur. Mais s'il est arrivé une chose pareille à Salomon, est-ce que nous sommes en garde maintenant pour que cela ne nous arrive pas de tomber, mais que nous glorifions le Seigneur? David avait confessé sa faute. Et Salomon, bien oui, on pense qu'il a écrit sur la fin de sa vie le livre que nous trouvons dans l'Écriture. Quel livre? L'Ecclésiaste. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Vanité des vanités. Tout est vanité. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes bouleversés quand nous pensons que ce Salomon, que tu as fait appeler Yedidia, le chéri de l'Éternel, qui était chargé de bâtir ta maison, a pu s'éloigner de toi d'une pareille manière. Alors donne-nous de comprendre que nous n'avons pas à avoir seulement des opinions religieuses, mais d'être en relation avec celui qui a donné sa vie pour nous. Que tu nous parles ce soir, que tu nous parles cette nuit, et que les exemples que tu nous as donnés, tant de David que maintenant de Salomon, parlent à nos cœurs, et que nous ne puissions pas quitter ce lieu, ce temps, sans t'avoir dit, Seigneur, je t'appartiendrai totalement, pour toujours. Fais de moi ce que